Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci pour votre accueil. Voilà, un peu plus bas comme ça. Voilà, un petit peu d'installation. Donc voilà, je m'appelle Olivier Erkens. Je suis époux d'Esther et nous avons trois enfants, début de la vingtaine. Je travaille pour Portes Ouvertes à plein temps. Et mon métier, privilège que j'ai, c'est d'aller d'église en église. Et je préfère me présenter comme étant ambassadeur de l'Église des chrétiens persécutés. Je travaille pas pour la mission Portes Ouvertes. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ce qui me motive vraiment, c'est de parler des chrétiens persécutés dans le monde, en fait. C'est ça qui m'a animé pour intégrer l'équipe. Et je voudrais ce matin commencer avec un verset biblique. Mais je voudrais quand même vous poser une petite question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, est-ce que ça vous arrive quand vous lisez la Bible, vous tombez sur un passage biblique, il a l'air sérieux, il a l'air important, mais vous n'avez pas l'impression qu'il vous concerne? Est-ce que ça vous arrive parfois? Vous lisez, Jésus a l'air un peu sévère, mais ouais, bon, allez, je tourne la page. Je vais vous montrer un verset comme celui-là. En tout cas, c'est ce que moi j'avais pendant des années. Et c'est Luc 14. Quand je me tourne, vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai une voix un peu grave. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ça va fort quand même. Et là, je tourne la page. Je me dis, mais ça ne me concerne pas tant que ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, en tout cas dans mon contexte, dans le nôtre, si on va dans la rue et qu'on dit Jésus est vivant, il est ressuscité, je crois en lui, ce soir je mange avec mon épouse et mes enfants. Il y a des pays dans le monde où ce n'est pas le cas. En l'occurrence, certainement des pays comme la Corée du Nord. Hein. Vous voyez le petit là à droite? Celui-là, le jour même, vous pouvez être ou mis dans un camp de torture ou bien être tué. Il y a quelques mois, il y avait cinq hommes, ils n'ont pas été surpris, c'est un villageois qui les a dénoncés. Cinq hommes se sont réunis pour prier. La police est venue les chercher et on n'a plus aucune nouvelle d'eux. Donc ça va très vite. Mais Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, il y avait beaucoup de choses devant. Oui, mais ne commencez pas à lire la liste. Hein. Vous aurez l'occasion. J'ai des cartes gratuites, au fait. Vous viendrez me voir et je vous donne ces cartes. Voilà. Moi, je vais dans la rue. J'annonce Jésus. Ce soir, je suis avec mes enfants. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Le prix à payer quand on est chrétien dans le monde n'est pas le même pour tout le monde. Et le poids de la croix n'est pas le même pour tout le monde. Et je vais laisser une petite vidéo, d'accord? J'espère qu'on la verra bien. Le prix à payer. Ça va, vous avez pu voir un peu où il y a beaucoup de lumière? Ça passe. Ah, j'ai entendu que vous avez fait le dimanche de l'église persécutée, donc je suppose que tout le monde connaît Portes Ouvertes. Mais le monsieur qui parle là, le frère André qu'on voit ici, vous le connaissez tous? Déjà, beaucoup de monde le connaissent? Oui? Les plus âgés, je voudrais dire. On a fêté les 70 ans cette année-ci. Il y a 3 semaines, on était au Christian Center. On a fait un grand événement. On était quand même pas mal de monde. Mais notre histoire, elle commence en 1955. Vous voyez le petit, nos dates là, en 1955. Ça démarre comment? Eh ben, c'est notre homme ici, frère André. Il est dans le début vingtaine, il sort de la guerre. C'est l'époque où il y avait le rideau de fer. Vous venez, ça on connaît. Et c'était une Europe ici à l'Est, hein, vous voyez mon laser, qui était d'ailleurs persécutée, qui l'est quand même moins. Et la Bible était interdite là-bas. C'était le communisme. Et lui, il trouve rien de mieux que de passer ce rideau de fer, de prendre le risque de le passer. Il se fait inviter dans des jeunesses communistes, c'est comme ça qu'il est devant des jeunes fanatisés, etc. Mais il n'est pas là pour ça. Il quitte ses jeunesses, cette raison officielle d'être à Varsovie, Et il part dans les rues de Varsovie. Il n'a rien à faire là et il cherche une église. Il cherche un pasteur. Et il va en trouver une. Il va rentrer dans l'église et le pasteur de lui dire, enfin, son nom, il se présente et il dit, mais qu'est-ce qu'une personne de l'Europe de l'Ouest vient faire ici? C'est pas courant, c'est même jamais arrivé. Frère André va commencer à poser des questions. Il va découvrir que l'assemblée, les membres de l'église n'ont pas de Bible. Une église sans Bible. Et en discutant avec le pasteur, il découvre que le pasteur n'a pas de Bible. Le pasteur prêche la parole de Dieu, n'a pas accès aux Écritures. Là, ça l'interpelle vraiment fort et il reçoit du Seigneur. Parce qu'il était en prière, il reçoit, il ne s'appelait pas Frère André, c'est Anna, c'est un peu bizarre, mais c'est un Hollandais. Affermi, c'est dans Apocalypse, affermi ce qui est sur le point de mourir. Et lui, il comprend, Seigneur, tu veux que j'affermisse l'Église qui est sur le point de mourir. Et il va dire d'accord. Et c'est ça qu'on a vu dans la vidéo, il dit d'accord. Mais comment? Il va rentrer en Europe de l'Ouest, et il va avoir cette voiture, la fameuse, vous voyez mon laser, cette fameuse coccinelle. Et c'est le seul outil qu'il aura, mais ce qu'il va faire avec, c'est lui mettre des bibles dedans. Alors c'est petit une coccinelle. Aujourd'hui, on a des coccinelles, elles sont plus grandes. À l'époque, quand on regarde une coccinelle, c'est quand même fort petit, et il cache les bibles dedans, dans le capot, à l'avant, à l'arrière, il ne sait pas en mettre beaucoup. Et il va, il démarre. Il va aller passer le rideau de fer, mais cette fois-ci avec une cargaison interdite et un risque éventuel de prison. Alors vous connaissez beaucoup, vous avez dit vous connaissez le frère André, est-ce que vous connaissez sa façon de faire pour passer les Bibles en contrebande? Une personne? Ça y est, je vous ai eu. Voilà, je vous ai eu. Alors, il avait une façon assez particulière, c'est que quand il conduisait, qu'il arrivait vers la frontière, il disait, Seigneur, quand tu es venu sur la terre, tu as donné la vue aux aveugles. J'ai besoin maintenant que tu rendes aveugles ceux qui ont la vue. Il dit, j'ai besoin que tu le fasses maintenant. Il est quand même courageux, quoi. Hein, et il laisse un peu le Seigneur au pied du mur. Mais il arrive et les gardiens commencent à visiter cette voiture. Et ça dure une heure ou deux. C'est dans sa biographie, hein, c'est indiqué. Et ils visitent cette voiture et ils sont touchés d'aveuglement. Et il passe la frontière et il va déposer ses Bibles. Et puis il va continuer à le faire. Et il va le faire pendant 20 années. Et il témoigne, il n'a jamais perdu une seule Bible. Pourquoi est-ce que j'aime dire ça? Parce que non seulement le Seigneur a donné une mission à Frère André à l'époque, mais il a donné le miracle aussi. Il a pourvu et il a donné le miracle pour que cette mission s'accomplisse. Alors ce qui va se passer avec les années, évidemment, ça va attirer beaucoup, beaucoup de regards. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église libre en Europe de l'Ouest. C'est tout ce qui est blanc ici, c'est tout libre. Hein. Beaucoup de personnes vont poser des questions et on va avoir petit à petit des bureaux qui vont se créer. Aujourd'hui, portes ouvertes, 70 ans plus tard, c'est 25 bureaux. Vous voyez tous les pays libres, on a 25 bureaux répartis dans tous ces pays. France et Belgique ont fait un bureau. Suisse, Hollande, Allemagne, États-Unis, d'accord? Et on a 70 bases. Vous voyez tout ce qui est coloré? Vous l'avez compris, hein, ce sont les régions persécutées. On a 70 bases là-bas. On a des contacts, on a des personnes sur place. Et c'est là qu'on glane toutes nos informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois que c'est franchement, au loin, vous voyez, vous pouvez pas lire, hein, je pense. C'est fort petit. Hein. En haut à droite, qu'est-ce qu'on fait en premier? Ça, c'est notre ADN. Si vous posez des questions sur notre mission, premier point, en haut à droite, il est marqué présence et prière. Nous sommes une mission de prière. Tous les matins, moi, je suis à Bruxelles. J'ai des collègues à Bordeaux, à Lyon, à Paris. À Strasbourg, les bureaux sont à Strasbourg, et tous les matins, nous commençons notre journée grâce à Teams, hein, en prière. On a un texte biblique, quel que soit, même si on en a qui sont dans les îles ou autres, on se connecte, on prie. Ce qu'on fait dans les églises, on vient, comme aujourd'hui, inviter l'église à prier. Et ce qu'on fait là, au milieu de tous ces pays, avec eux, c'est de la présence et de la prière. C'est notre ADN, c'est un point de départ, c'est une fondation dans notre mission. Ensuite, à droite, vous voyez le plaidoyer? On plaide. Avec les années, on a gagné beaucoup de crédit et ça nous permet d'aller dans des endroits particuliers. Ça, c'est le Parlement européen. Et si vous regardez bien sur les écrans, ce sont les écrans, il y a portes ouvertes dessus. Ça veut dire quoi? C'est que nous allons devant les politiciens et qu'on peut leur expliquer ce que je vous explique, par exemple, aujourd'hui. C'est quand même important. Et ce que nous avons ici, c'était en janvier, Parlement européen, qui a abouti à certains résultats. La semaine d'après, on était à l'Assemblée nationale à Paris. Et là, des députés qui ont entendu parler ont contacté l'ambassadeur du Nigeria pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça va pas. Donc on a un impact sur les politiciens. J'en suis pas peu fier parce que c'est bien de toujours agir dans le pays, mais c'est bien aussi d'aller à la tête. Hein. Dans Babylone, Nebuchadnezzar et tout ça, quand c'est Nebuchadnezzar qui change, c'est tout le pays qui va changer. En bas, distribution de Bibles. Ben oui, frère André a commencé avec ça. Et 70 ans plus tard, c'est toujours la même chose. On distribue environ 1 million de Bibles dans le monde par an. Mais quand on dit 1 million de Bibles, ce n'est pas des palettes sur un bateau et c'est bon. C'est 1 million de Bibles dans des pays où elles sont interdites souvent. Hein. Donc quand nous, on va amener des Bibles en Corée du Nord, ici à droite, tout à fait à droite sur ma carte, il faut passer par la Chine, il faut être clandestin, il faut être organisé. Ce n'est pas toujours facile et il faut la main du Seigneur sur cette œuvre. Mais quand même, 1 million de Bibles par an. Formation biblique et soins post-traumatiques. Oui, on renforce les gens dans ces régions-ci avec des formations bibliques pour des pasteurs, etc. Pourquoi ? Mais nous, aujourd'hui, on est au bénéfice de l'Église ici, au bénéfice d'un pasteur, etc. Dans ces régions-là, on peut parfois être des chrétiens très isolés. Alors on forme des pasteurs, on forme des leaders qui permettent de rassembler de nouveau, qui permettent à l'Église de grandir, en fait, de tenir et de grandir. Mais on a un autre qui est le post-traumatique. Il y a 2 semaines, j'étais avec une Nigérienne. J'étais la chercher à l'aéroport. Je partais en tournée toute une semaine en Belgique, visiter les églises hein, chaque jour. On ne se connaît pas et elle m'explique, ben voilà, moi, on se découvre hein, puisqu'on va faire une tournée ensemble. Elle me dit quand ça s'est passé une dizaine d'années, elle dit, nous étions au village et Boko Haram, vous connaissez Boko Haram ? Boko Haram est arrivé, il nous criait de tous les côtés. Elle a dit, première chose à faire, c'est aller chercher les enfants à l'école. Elle et son mari sautent dans la voiture, aller vite chercher, sécuriser, rassembler la famille. Boko Haram est sur le chemin, sur la route. Ils les stoppent. Ils sortent le mari, ils sont à 5 autour de lui. Ils le mettent à genoux et ils lui disent, tu es musulman ou bien es-tu du parti politique local? Mais lui, il était pasteur. Il est à genoux et dit « Non, moi je suis chrétien, je suis de Jésus, quoi, je suis de Jésus-Christ. » Et ils lui ont tiré 5 balles dans la tête. Et cette personne dans la voiture, fantastique, elle m'a dit « ils ont assassiné mon mari, devant moi. » Ils lui ont dit ensuite, parce qu'il y avait eu d'autres assassinats, ils lui ont dit « Toi, tu prends la voiture, tu prends les enfants et tu vas à l'hôpital. » Ils l'ont pas assassiné parce qu'ils lui ont posé la question à elle aussi. Et elle a dit « Je suis chrétienne comme mon mari. » Et c'est un autre membre de Boko Haram qui a dit « Non, on ne tue pas les femmes ici aujourd'hui. » Donc elle est en route, dépose les enfants à l'hôpital, elle s'arrête après et explique que c'était comme si j'étais vidée de ma vie. Quoi. Elle était en traumatisme, on appelle ça. D'accord ? Alors c'est là que cette femme, elle m'expliquait qu'en fait on l'a mise en contact avec Portes Ouvertes et Portes Ouvertes l'a prise et l'a amenée dans un centre, par exemple. Ça c'est un exemple, d'accord ? Et là, ce qu'on fait, c'est les écouter. Essayer de les reconnecter avec le Seigneur parce que ce qu'ils ont vécu, prier Dieu, et puis on les amène sur le chemin du pardon. Ça se fait pas rapidement, hein. Mais il faut essayer. On prend du temps avec ça. Mais quand vous avez été guillotiné par la vie, vous ne pouvez pas aller de l'avant sans, hélas, le pardon en fait. Vous pouvez pas répondre à l'acide et au vinaigre par de l'acide et du vinaigre. Votre vie est finie en fait. Si vous répondez par l'acide, vous allez produire des fruits de mort. Si vous allez par le pardon, vous allez produire des fruits de vie. Et c'est ça qu'elle disait, quand Portes Ouvertes est venue, elle m'a reconnecté avec le Seigneur, avec le pardon. Et elle est retournée vers la vie. Et dans la voiture, elle disait, joie, joie, et moi j'étais en pleurs. Elle me dit, joie, joie, joie. Ce sont des centres où on enseigne le pardon. Et vous savez, elle me dit, ouais Olivier, c'est... Mais c'est ce que le Christ annonçait, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Hein, c'est lui qui nous enseigne de faire ça. Quand on ne sait pas pardonner, Satan a gagné. Et pour terminer, projet de développement socio-économique, mais il y a un moment, il faut donner à manger parfois. Il faut, parfois, on les aide à être autonomes et on va leur donner des moyens, l'alphabétisation, les microcrédits, etc. Parfois, il faut être tout simplement très pratique aussi. Ça va ? Voilà, ce sont les cinq grands domaines, mais en général, quand on est ici au milieu, c'est surtout eux qui nous disent ce dont ils ont besoin. Mais en général, ça tombe dans ces cinq canaux-là. Mais c'est eux le point de départ. Ce n'est pas nous d'un bureau à Strasbourg qui décidons ce qu'on va faire, d'accord ? C'est eux qui nous font des demandes. Ça résume un petit peu. Ce qu'on veut faire, c'est fortifier, équiper dans les pays où ils sont, les plus persécutés et discriminés. Et on aimerait bien qu'ils redeviennent sel et lumière. Souvent, ils sont persécutés à cause de leur foi. Et parfois, ça peut arriver, ils sont littéralement finis. Et le rayonnement, c'est pas des super-hommes et le rayonnement peut être éteint. Quand on vient les aider, parfois, ça les réanime. Et ce qu'on aime bien, c'est quand ils redeviennent sel et lumière, quand ils rayonnent autour d'eux. Voilà. Dans le monde aujourd'hui, c'est 380 millions de chrétiens persécutés. C'est un grand nombre. C'est 15 millions de plus que l'année passée. Bon, ça veut tout dire et rien dire, 15 millions de plus. Mais 15 millions, c'est quand même plus que la population belge. C'est la croissance en un an. Mais il faut savoir que dans tous ces pays, paradoxalement, vous allez prendre l'Iran, par exemple, qui est vraiment sous les feux, on va dire, d'Israël, mais des feux médiatiques. L'Iran est en croissance chrétienne. L'Église grandit là-bas. Donc il faut savoir que si l'Église iranienne grandit d'un million, ce million se retrouve dans notre chiffre ici aussi. Donc la persécution augmente, mais le nombre de chrétiens augmente aussi. Paradoxalement, souvent, quand Satan attaque une Église, elle a tendance à se réveiller, en fait. Ça va ? Je sais que c'est bizarre, mais... Alors, pour Portes Ouvertes, c'est quand même des chiffres qui sont très grands, mais qui le sont depuis des années. Et notre question, c'était oui, d'accord, mais ça fait beaucoup de monde. Où est-ce qu'on met notre priorité ? Dans quel pays on va agir ? Et on avait besoin de savoir où se trouve la persécution et son importance. Donc voilà, ici, nous avons 4000 personnes. Vous voyez mon laser ? On a plus de 4000 personnes. Si moi je voyage, avec Portes Ouvertes, on est appelé à voyager tous les ans et de rencontrer les chrétiens persécutés. Mais si on est là au milieu et qu'on rencontre un collègue, on n'a aucune idée. On va se croiser et on n'a aucune idée qu'on travaille pour la même mission. On ne va pas utiliser le terme, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas savoir qui ils sont et eux ne peuvent pas savoir qui je suis ? Pour leur protection. Parce qu'ils sont tellement dans le pays qu'ils sont sujets à la persécution au même titre que leurs frères. Mais vous pouvez imaginer que si jamais le gouvernement apprend qui ils sont, ça ne veut pas dire la prison, ça veut dire qu'ils vont peut-être les suivre et voir avec qui ils sont en contact, etc. Donc voilà. Mais ces 4000 personnes restent et demeurent pour nous, nos yeux et nos oreilles. Une église a explosé en Égypte, ils vont aller voir. Il y a eu un viol, il y a eu un meurtre. Tout ça, ça se passe et ça nous permet d'avoir des chiffres. Ça nous permet d'avoir des chiffres qu'on étaye après une année et qu'on soumet à des bureaux indépendants, qui, eux, vont valider. Donc, les chiffres que nous donnons sont validés par des non-chrétiens, en fait. Ça va ? Et voilà sur quoi on arrive, c'est cette fameuse carte que vous voyez là. Je ne sais pas lequel des deux vous voyez le mieux. Vous avez ces couleurs ici. Vous avez ces couleurs jaunes non chiffrées. C'est des pays qui commencent à rentrer dans la persécution. Vous voyez la Russie, l'Ukraine ? C'est simplement, probablement, sous le couvert de la guerre que des chrétiens payent un prix. Souvent, l'impunité des guerres permet à certaines personnes d'en profiter. Si la guerre s'arrête, peut-être que ça va passer de nouveau dans le blanc. Mais ici, les pays, c'est marqué en haut, on a forte persécution, puis très fort, et puis extrême, ce sont les pays rouges. D'accord ? Cette carte-là, en janvier, tous les ans, on la publie, elle est attendue par d'autres des ONG, comme Messiaen sans frontières et tout ça, elle a assez de crédit maintenant, ils l'utilisent, ils l'attendent, et ça leur permet à eux aussi de savoir les priorités. Ça nous permet d'aller faire du plaidoyer chez les politiciens. Ça, on met devant un politicien, il a vite compris. Mais ça nous permet aussi à nous de venir devant les églises. Quand vous voyez ça, Ben, vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans le monde. Mais ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une autre carte, un peu plus contrastée. C'était la première carte qu'on a éditée en 94. Donc ça, c'est les chiffres 93 et on édite en 94. Vous avez ça en tête ici, hein. Ça, c'est le monde en 1994. Je vais faire play et on va regarder les affiches se mettre les unes derrière les autres. 95, 96, 97, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous donner cette fois-ci une vision dynamique de ce qui s'est passé pendant les 30 années. Et je vais me taire, comme ça je vous laisse vous réfléchir. Ça va? Je la passe et je la repasserai après, hein? Parce que ça va aller assez vite quand même, mais vous allez voir les années défiler. Vous avez vu la tendance? Pour moi, ça c'est ce qui a quasi le plus d'impact quand je vois les églises, parce que c'est en me taisant que j'ai le plus d'impact. Vous avez vu ça? Et depuis la pandémie, ça a accéléré encore. Les raisons, je les connais pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde qui est majeur, et je pense que les églises doivent. On a un corps. 1 Corinthiens 12 dit que quand un membre souffre, les autres souffrent aussi. 1 Corinthiens 12, quand vous irez le lire, il dit aussi, attention Église, prends soin, bénis ce membre qui souffre et tu seras béni aussi. Il y a quelque chose, il est important pour notre Église. Si on ne souffre pas, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est important ce qui se passe. Certains vont me dire, oui, Oli, c'est bizarre, mais ici, désolé, mais. L'Afrique subsaharienne que vous avez eue dans le dimanche de l'Église persécutée, c'est tout des chrétiens, des réveils spirituels là-bas. Comment est-ce possible? Le Congo, c'est 95% de chrétiens là-bas. Ben oui, c'est un réveil spirituel et il y a une désorganisation militaire, etc. Mais moi, je crois qu'on peut parler en termes de spiritualité. Je crois que Satan veut éteindre le réveil spirituel dans le monde et en fait, ça se réveille de tous les côtés. Sans vouloir dépicter une image trop encourageante, mais en Iran et tout ça, il y a des réveils spirituels. La Chine, vous êtes au courant de la Chine. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. C'est des milliers de chrétiens. Et Satan attaque. Il attaque, il cible et il attaque. Et donc voilà, c'est pour ça que vous aviez eu le dimanche de l'Église persécutée pour ces zones-là. C'est parce que bientôt, si ça continue, tout le continent sera persécuté, hein. Je vais le remontrer, comme ça vous voyez un petit peu. Là, vous verrez une Amérique du Sud qui va repasser toute blanche et qui va se recolorier. Normalement, on voit les frontières. Je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas là. Je repasse un coup, ça va? Voilà, je voudrais vous présenter, enfin en profiter pour présenter peut-être deux, trois petits témoignages. Hein, c'est quand même là le terrain, parce qu'on parle de chiffres tout le temps, mais au fil finalement, tôt ou tard, ce sont vraiment des vies humaines dont on parle. Hein. Mais je voudrais quand même d'abord donner un petit verset. 2 Corinthiens 4, Paul était un chrétien persécuté. Hein. C'est notre exemple, en fait, c'est un homme persécuté. Et il dit persécuté, mais non abandonné. Abattu mais non anéanti, hein, il dit en 2 Corinthiens 4. Et si je peux remettre le contexte, parce qu'il dit plus que ça, il dit accablé de toutes sortes de souffrances, mais non écrasé, il dit. Inquiet, mais pas désespéré. C'est quoi c'est bizarre quand même comme verset, parce que il y a des gens, même un gouvernement, qui était contre Paul, qui savait le fouetter, l'emprisonner, etc. Et lui, à chaque fois, il se relève. Chaque fois. Il se relève. Il y a quelque chose qui fait qu'il se relève à chaque fois. Et cette chose-là qu'il avait, on en a parlé ce matin, ce n'est pas un pouvoir d'achat qui nous permet de nous relever à chaque fois. C'est cette lumière du Christ en nous. Hein. C'est de ça qu'il parle dans ce contexte. Il dit, nous avons une puissance de Dieu dans notre cœur, une lumière de la face de Jésus dans notre cœur. Paradoxalement, quand on attaque le chrétien et qu'il devrait être finalement par terre, il y a cette chose en lui, cet espoir qui va le relever à chaque fois. La lumière, c'est dans le texte, hein. Vous verrez dans son contexte, la lumière brille dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de la gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Vous vous rendez compte, c'est le même esprit de Paul, c'est le même esprit des chrétiens persécutés. Ça, j'aime bien. Nous portons ce trésor spirituel, un trésor, et on a dit le mot trésor hein, ce matin. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme des vases d'argile. Hein. Nous, on est vraiment de l'argile, hein, on est d'accord. On est vraiment fragile. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu. Puissance extraordinaire qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même en Belgique. Hein. Notre être physique se détruit peu à peu, mais notre être spirituel se renouvelle chaque jour. La détresse que nous éprouvons, la nôtre, on peut en avoir, mais là-bas, elle est encore différente. Hein. Mais la détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, en comparaison de la gloire abondante et éternelle, plus importante, qu'elle nous prépare. On va regarder les témoignages. Et je pense qu'il faut garder en tête ce verset. On va voir ces témoignages, ne jamais oublier qu'il y a quelque chose qui va faire, qui se relèveront tout le temps, d'accord ? Je n'irai pas vers la pitié pour eux, mais je regarderai leur vie peut-être comme un exemple. Voilà, on va commencer par l'histoire du pasteur Young. On est au Myanmar, il y a 4,8 millions de chrétiens au Myanmar. Il y a eu une révolution hein, en 2020-21. Ils sont passés d'une pseudo-démocratie, de l'installation d'une démocratie, maintenant à un régime totalement totalitaire et militaire. Et les chrétiens... Vous avez vu, ils avaient un séminaire tenir ferme, ils ont montré. Sous le tableau, il y a des chants contre l'armée, etc. Deux jours plus tard, ils sont déjà en train de prier pour les commandants, etc. Il y a déjà ce fameux revirement dont je parlais. Pasteur Mint, c'est un homme qui, dans son village au Myanmar, hein, c'est un pasteur en fait, et c'est quelqu'un qui aime bien annoncer l'évangile. Et le problème, c'est qu'il y a des leaders bouddhistes qui sont dans ce village et qui n'aiment pas du tout ce qu'il fait. Mais il y a un chef de village, lui qui n'est pas bouddhiste, mais il est chef de village, et c'est lui qui donne la protection à Mint et à son épouse. Et donc lui, il en profite et il annonce simplement le Christ. Et puis, jusqu'au moment où il y a eu un garçon qui s'appelle Yutun, et Yutun va donner sa vie à Jésus-Christ. Seulement, le revirement que Yutun va avoir, hein, c'est vraiment une conversion, une repentance, est tellement visible que les chefs, les leaders bouddhistes voient la puissance du message de Christ dans la vie de Yutun. Et ils commencent à se dire, c'est dangereux, quoi. C'est puissant. Et Mint va acheter un terrain en dehors du village. Et il va continuer à annoncer Jésus-Christ. Et en fait, il va construire et ça va devenir une église, en fait. Ce rayonnement va faire qu'il y a d'autres chrétiens qui viennent. Mais quand au Myanmar, il y a eu la révolution, ils ont enlevé le chef de village qui le protégeait et ils ont mis un chef militaire à la place. Et à ce moment-là, la protection de Mint a été terminée. Les chefs alors bouddhistes ont été voir un des riches du village et ils ont dit, nous voulons... tuer Mint et son épouse. On veut fixer le problème une fois pour toutes. À ce moment-là, l'homme riche a fait, c'est le témoignage de Mint, hein. Ils ont fait boire quelques jeunes qui ont bien été arrosés et puis qui sont partis à la maison pour en découdre avec Mint et le tuer. Mais les villageois l'ont prévenu Mint et la famille et il a eu le temps, lui, de partir avec son fils et se mettre à l'abri. Les gars sont arrivés tout à fait ivres, sont rentrés dans la maison. Son épouse a pu se cacher avec sa petite fille. Et ils ont un petit peu attendu, ils ont été voir à gauche, à droite, ils ont trouvé personne. Ils sont sortis et ils ont assassiné deux personnes, deux chrétiens qu'ils connaissaient dans le village. À ce moment-là, son épouse a dû s'enfuir et petit à peu, je vais passer les détails, mais ils vont pouvoir être rassemblés. Seulement, entre-temps, d'autres personnes vont venir dans cette maison, vont la piller complètement et puis vont l'incendier. Ils vont en faire une ruine. Et pour lui et son épouse, c'est fini. La maison est terminée. On appelle ça, c'est le sujet au fait de Portes Ouvertes maintenant, il devient un chrétien qu'on appelle déplacé. C'est-à-dire qu'il ne peut plus retourner sur place, mais il n'a pas vraiment d'endroit où il sera le bienvenu. Ça veut dire quoi? Parce qu'on parlait du pouvoir d'achat. Hein. Il n'y a plus de pouvoir d'achat. Hein. Le pire lui est arrivé. Ce que les Belges redoutent le plus, il lui est arrivé. Moi, je peux aller plus loin. On dit que le Belge a une brique dans le ventre. Mais imaginez que votre brique, elle est par terre tout à coup. C'est leur quotidien. Ce sont nos frères chrétiens. Plus de scolarisation pour les enfants. Hein. Ils sont partis dans les jungles et les forêts. Vous avez vu dans la vidéo qu'ils sont visés hein, par même des bombardements. Plus d'emploi, donc ça, c'est... évident. Et alors il y a les problèmes de nourriture, d'eau potable, les soins médicaux, les médicaments. Vous voyez un peu le contexte compliqué que ça peut être. Ils vont être rencontrés par Portes Ouvertes. On va les aider, comme je vous l'ai dit, par plusieurs moyens. Et son épouse va dire à Mint, excusez-moi. Depuis que nous avons été déplacés, personne n'a pris la peine de s'enquérir de notre bien-être, dit-elle, son épouse. Nous sommes si reconnaissants d'avoir que vous ayez écouté notre histoire et que vous êtes venus nous aider. Elle va dire plus loin, et ça, je trouve ça. Vous voyez, quand je parlais des chrétiens qui se relèvent, normalement, on devrait. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de Belges, quand ils seront là par terre, ils vont faire une dépression quand même. Hein. La vie, elle est. Mais regardez la dépression qu'elle va faire. Nous sommes dans le ministère depuis de nombreuses années et nous avons vu beaucoup de gens venir au Christ. À cause de la guerre et de la persécution, de nombreux croyants ont été déplacés et nous avons perdu le contact avec eux. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus... Oh, s'il vous plaît, merci de prier pour que Dieu soit avec eux et qu'ils restent fidèles à Jésus. C'est bizarre, non? Moi, j'appelle ça, c'est 2 Corinthiens 4. Ils devraient être finis, ces gens-là. Et ils s'inquiètent de leurs frères chrétiens. Ils ne s'inquiètent pas d'eux-mêmes, ils s'inquiètent des autres. Ici, c'est la même chose. Ça, c'était... on a une vidéo. Hein. Si vous allez sur Internet, vous allez voir une vidéo qui vient de sortir sur le Myanpur. Allez voir, mais je ne peux pas la montrer. Elle fait 13 minutes. Même chose pour lui et son épouse et sa petite-fille d'un an. Il est pasteur et il va voir... on va incendier la maison, église brûlée. Il a pu partir sur les collines avec ses frères et sœurs chrétiens. Et ils regardent leur église brûlée, vous verrez sur la vidéo. Et ils se serrent dans les bras ensemble, parce qu'ils commencent une nouvelle vie, vie de déplacés. Nous nous sommes serrés dans les bras et nous avons pleuré, impuissants. Nous ne pouvions rien faire d'autre que de prier. Et si un a réussi à rejoindre un endroit plus sûr avec quelques membres des églises et vous savez ce qu'il dit ? Je veux que les agresseurs connaissent Jésus. Quelle différence quand même. C'est son témoignage. Hein. Il dit plus tard, je veux que les agresseurs connaissent Jésus. Ses yeux s'embuent lorsqu'il partage son véritable espoir pour ceux qui lui ont tout pris. Malgré tout ce que nous avons perdu, ma femme et moi, nous avons décidé de pardonner à nos bourreaux, nous souvenant que Christ nous a pardonné et est mort pour nos péchés. Quelle puissance, non ? Et nous aussi, on a été indignes hein, de la bénédiction du Christ et nous aussi, on fouillait Jésus-Christ. Mais il nous a graciés. Et il termine, nous savons que nous sommes appelés à prier pour nos adversaires. La vraie joie réside dans la présence de Jésus dans nos vies. Et la foi en lui nous apporte la paix au milieu de quoi ? De la dévastation. C'est le trésor. S'ils arrivent à pardonner, on doit le faire aussi. Mais il ne faut pas que Satan gagne. Nous devons aller vers le chemin du pardon et c'est ce qu'ils vont faire. Vous avez, et je vais mettre ça en dernier, je pense qu'on a une bonne image des chrétiens déplacés. Hein. Vous avez compris aussi que nous, quand on fait un appel, et je vais en parler après, mais un appel au don, etc., on est sur le terrain et on va agir pour ces chrétiens. On va leur permettre de se rassembler, de manger, etc. C'est ça qu'on fait dans la pratique. Hein. Mais vous avez déjà agi, en fait. En Afrique subsaharienne, ici, dans ces zones-ci, vous avez eu un dimanche de l'église persécutée. Et vous avez eu une vidéo du pasteur Barnabas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était assez interpellant puisque c'était un camp déplacé. Il y a 16 millions de déplacés en Afrique subsaharienne. Je reviens en arrière, excusez-moi. Il y a longtemps que ça tourne ? Et à l'époque, on vous avait mis bel pasteur Barnabas par les Seto Nigeria. Hein, ils étaient dans cette tente qui faisait 1,50 m sur 1,50 m, malnutrition, tout ce que je viens d'expliquer. Alors lui, le problème, vous l'avez vu dans la vidéo à l'époque, c'est qu'il disait, on vient me voir, me dire où est Jésus, où est le Seigneur. Quoi. Il dit, mais je sais, enfin, il y a un moment où ils sont dans les pires conditions au monde. Et il a dit, c'est au point que certaines filles chrétiennes, pour subvenir à la nourriture des enfants, elles commencent à penser, et certaines y vont, elles vont se prostituer. Des chrétiennes, hein. Et lui était en pleine désuétude. Il a dit à la fin de la vidéo, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est ce que vous aviez eu en novembre. Bon, on a fait le tour de toutes ces fameuses églises avec cette vidéo et plein de pasteurs s'y sont mis. On en a parlé dans tous nos pays, toutes nos églises et ensemble, on s'est levé. Seulement 2 mois plus tard, cette vidéo est sortie. C'est le remerciement du pasteur Barnabas. Et je me fais toujours un plaisir de le donner dans les églises qui ont fait le dimanche église persécutée, parce qu'on voit dans les 2 mois qui ont suivi un impact. Ça va, on y va, j'espère qu'on verra assez d'images. Et quand vous regardez les images, regardez ces femmes, regardez leurs robes pleines de couleurs, regardez la joie qu'elles ont. Et regardez comme elles sont celles et lumières de nouveau. Moi, je suis désolé pour le décalage, je sais pas, c'est la première fois que j'ai ça. À la fin des temps, les justes, il est dit dans la Bible, se retrouvent devant Jésus. Et Jésus dit, maintenant, c'est le moment de rentrer dans le royaume. Et eux, j'étais en prison, vous avez fait ce qu'il fallait, mais ils disent, quand est-ce qu'on t'a vu, quoi ? Il dit, mais chaque fois, quand j'étais en prison, c'était moi qui étais en prison. Quand j'étais malade, c'est moi que vous êtes venu guérir. Quand j'étais nu, c'est moi. Vous êtes venu, moi, m'habiller. Je pense que nous, frères et sœurs, dans le corps du Christ, quand on voit ça et qu'on a agi, je crois qu'un jour, on va être surpris que le Christ va dire, c'est moi que vous avez aidé. Ça, c'est la pratique, d'accord ? C'est ce qu'on fait. Pour cette campagne ici, maintenant, on va, pour ces chrétiens déplacés, on va donner la nourriture et de l'eau pour 4000 chrétiens et sensibiliser au risque 130 personnes. Vous allez dire, waouh, sensibiliser. Vous avez entendu qu'il y avait de la prostitution dans le camp. C'est des réalités. Ce n'est pas parce qu'on est avec des chrétiens qui ne sont pas sujets à des choses, des tentations qui vont au-delà d'eux-mêmes. Nous devons sensibiliser peut-être des plus jeunes générations, leur dire que les gangs, la drogue, la prostitution, quand ils sont dans des camps déplacés, ne sont pas les bonnes choses. Ce n'est pas les bons endroits vers lesquels ils ont besoin de ça. On sera là pour les entourer et leur parler de ça. C'est ce qu'on fait. J'aurais jamais pensé. Hein. C'est vraiment Portes Ouvertes qui est venu avec ça. Les post-traumatiques, il y a des morts. Nous encadrons, mais je vous en ai parlé à tantôt. Je ne m'attarde plus à ça. Les activités économiques, on en a 90 pour l'instant. On essaie de répondre aux appels. Hein. On n'a pas dit, tiens, on va en faire 90. On essaie de répondre aux appels. Les formations de disciples, 84 chrétiens déplacés, ce sera sans doute 80 leaders, et les formations et retraites pour des pasteurs. On va leur donner tout un cadre dans lequel ils peuvent être unis et se renforcer. Je vous propose un temps de prière, tous ensemble. Tous ensemble, ça va, oui. On n'en a pas parlé, au fait. Je vous propose 3 sujets. Priez pour que nos frères et sœurs au Myanmar soient sel et lumière. Vous avez vu... Au Nigeria, vous avez vu la lumière qu'ils émanaient après. On priait pour ça, pour le Myanmar. Pour la sécurité des chrétiens, c'est le 2e point, qui se cache pour fuir les bombardements. Vous avez vu qu'on les vise, les chrétiens, en bombardement. On priait pour leur protection. Levons nos voix ensemble pour ça. Et prions pour les persécuteurs. Ces hommes de guerre deviennent des hommes de paix. Ça arrive parfois que des chefs de gang ou autres se convertissent, hein. Et alors, c'est tout le gang qui part. Nous, on avait eu un projet qu'Alexandre connaît ici, au loin. C'était près de Bujumbura, que vous connaissez peut-être, mais ça devient loin, mais Imuira. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un ex-chef de gang qui est devenu le président, hein, qui nous a, lui, est venu donner mettre la première brique d'Imuira au sol. Hein. C'est une conversion, en fait, hein, qui a permis de faire des choses fantastiques. Levons la voix et prions pour ces chefs de gang. Nous avons une prière de puissance. Ça va? Je vais, par contre, pas laisser trop de temps pour 7-8 minutes, l'un et les autres, et puis je reviens et je conclue à quelques annonces. Ça va? Amen. Quand frère André a reçu ce fameux appel, va et fortifie l'Église qui est sous le point de mourir, il va recevoir une autre parole aussi. Et il entend « Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera le nom de Jésus-Christ. » Donc, au jour 1, il savait déjà quelle serait l'issue de tout ça. Un jour, tout genou fléchira. Un jour, toute cette carte, on va dire, deviendra blanche. Hein. Mais on n'en est pas encore là. Et je vous invite à voir quels sont les moyens d'agir en tant que corps du Christ. Comment s'engager? Eh bien, le premier, c'est prier. C'est ce que je disais là tantôt. Un des moyens, c'est de s'abonner au magazine hein, mensuel de Portes Ouvertes que j'ai ici. Ça, c'est celui de, vous voyez, un chrétien déplacé. Bon, alors, nous, on invite les gens à l'avoir pour rester en contact avec les histoires. Il y a les témoignages, etc. dedans. Il y a les annonces. C'est les 70 ans. On est au Christian Center. Vous comprenez notre intérêt d'être en contact avec vous et que vous le soyez avec les chrétiens. Mais je pense, ce que moi j'aime en particulier, c'est cette fameuse petite liste. Ça, Satan, il ne l'aime pas beaucoup. C'est celle où chaque jour, quand on lit notre Bible, elle est dans notre Bible, on la prend, on a un petit sujet chaque jour et on prie pour un chrétien, pour quelqu'un qui est en prison, etc. Ça, c'est l'outil que je recommande le plus de tout ce que je vais proposer maintenant. Mais hélas, il vient avec le magazine, parce qu'on ne peut évidemment pas l'envoyer à chaque... normalement, c'est 11 euros pour toute l'année. Ici, comme je suis là, c'est 50%. C'est 5,50 euros. Oui, c'est pas là-dessus qu'on fait de l'argent. c'est pas le but. Mais vous, alors, vous pouvez remplir, vous venez à la table là-bas si vous voulez, vous pouvez remplir votre abonnement, 5,50 euros, et vous recevrez 6, avant c'était 12 par an, ce sera 6. Elles sont plus étoffées, mais il y en a moins. Donc c'est 6 par an. Je recommande vivement. Ensuite, vous voyez, voyager, croyez-le ou pas, Portes Ouvertes organise des voyages. Nous, chaque année, on va les rencontrer, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas aller dans la jungle, hein, c'est tous les soirs l'hôtel. C'est sécurisé, on n'a jamais eu de problème. Mais vous allez faire des visites, ça c'est pour la couverture, mais vous allez aussi aller les rencontrer souvent. Ou bien vous allez aller dans des zones, si vous êtes en Corée du Nord, vous n'y serez pas parce que c'est fermé pour l'instant, mais vous irez dans des zones particulières pour prier, par exemple. Ce sont des voyages qui n'ont rien à voir avec... on n'est pas une agence de voyage. Mais quand vous allez être là, en réunion de prière... Hein, parce qu'il n'y a pas des froids ou des chauds, des tièdes là-bas. Hein. On est d'accord, hein, l'église là-bas, elle est bouillante. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ouais, je ne sais pas, je vais faire peut-être un peu de prison et aller y réfléchir. C'est oui ou c'est non, je porte ma croix ou pas. » Quand vous allez aller là-bas prier avec des gens qui ont dit oui, ça va fort. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. Rencontre annuelle. Vous voyez, le 25 et 26 octobre. Alors, je prêche ma chapelle, hein, mais... c'est tout nouveau qu'il y a une personne comme moi en Belgique. Et moi, j'aimerais bien montrer aux Français, mais c'est moi, hein, que les Belges y viennent, ils bougent, quoi. Hein, et j'en ai déjà dans plusieurs églises qui m'ont dit, oui, on sera là. Hein. Mais ce que c'est quoi? C'est que vous ne voyez pas tout le public, là. On a environ 1400 là-bas. Et moi, j'aimerais bien que les Belges commencent à venir. C'est un week-end où on aura entre 4 et 6 témoignages de chrétiens. On les fait venir du Nigeria, du Yémen et tout ça. On leur paye tout et ils viennent partager chez nous. Et après, on part en tournée. Hein. Moi, j'en prends un et on part en tournée une semaine. Mais en tout cas, ce week-end, je le recommande. Notez-le bien. Attention, c'est 1400 personnes, mais c'est un week-end qui est souvent sold out, comment on peut dire. On le remplit. Et il y a aussi les logements. Faire attention si vous voulez venir. Mais alors, c'est l'occasion de se voir là-bas. Vous pouvez se soutenir financièrement. Ça, vous inquiétez pas. Vous allez sur portesouvertes.fr. Il y a marqué don, hein, comme tout le site. Vous aurez tous les détails là. Il est possible d'être antenne. Il est possible d'aider bénévolement. Si jamais vous avez à cœur, le Seigneur met à cœur que vous vous avez envie d'aider d'une manière ou de l'autre, vous venez chez moi, je vous donne ma petite carte, on reste en contact. Et peut-être un jour, je dirai, ah, j'ai besoin d'aide. Pour terminer, vous voyez celui-là, écrire. Il est possible d'écrire. Donc nous, on va acheminer cette lettre jusque sur place. On peut faire ça dans les écoles du dimanche aussi, avec les enfants. Vous pouvez voir à qui vous écrivez. Nous, on vous a garanti qu'il viendra. On ne sait pas combien de temps ça pourrait mettre. On a eu Taher dernièrement en Iran, qui a fait plusieurs années en prison. Les gens ont écrit. Et quand il est sorti de prison, il avait un sac de lettres. Mais je peux vous dire que quand il est sorti de prison, qu'il a été dans son living et qu'il a commencé à les lire les unes après les autres, ça l'a bouleversé. Hein. Il y a un témoignage de ça. Il a dit, mais toute l'église était derrière en train de prier, quoi. Et il a dit, je vais prier pour chacune des personnes, je vais prier que la bénédiction du Seigneur tombe sur ces personnes. Vous voyez, bon, c'est tout. Voilà, il y a moyen d'écrire. Sur le site, vous le trouvez, et il est là, le site, d'accord. Il faut un S, portesouvertes.fr, et vous avez toutes les annonces, tous les détails qui sont là. Voilà, c'est sur ce chrétien déplacé que je vous remercie, et que Dieu vous bénisse.